Regard sur le Moyen-Orient.
L'émission du Synode.
Présentée par Olivier Bonnel de Radio Vatican
et Frédéric Mounier du journal La Croix.
Bonjour et bienvenue à tous dans les studios de Radio Vatican pour la première de nos émissions spéciales consacrées au Synode sur le Moyen-Orient. Émission que je suis ravi de présenter aux côtés de Frédéric Mounier, correspondant du journal La Croix ici à Rome. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Une émission réalisée également en partenariat avec l'Œuvre d'Orient et RCF. Ce synode spécial sur le Moyen-Orient, convoqué par Benoît XVI en septembre 2009, s'ouvrira ce dimanche. Et pendant 2 semaines, nous nous retrouverons chaque jour pour parler de ce Moyen-Orient, région si proche et si lointaine à la fois, qui fait souvent la une de nos médias. Communion et témoignage, c'est le thème choisi pour cette assemblée synodale. Communion comme le besoin d'unité entre les nombreuses églises chrétiennes dans une région marquée par les fractures. Et témoignage comme l'exigence d'une parole et d'une action chrétienne dans un monde où les chrétiens sont des minorités, parfois des minorités persécutées. Et avec nous aujourd'hui pour cette première émission, Monseigneur Louis Sacco, archevêque chaldéen de Kirkouk dans le nord de l'Irak. Bonjour Monseigneur Sacco.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette première émission. Vous êtes l'un des initiateurs de ce synode. Monseigneur Sacco, j'ai envie de vous poser une première question. Comment va l'Irak aujourd'hui?
Il y a une peur. Les gens ont encore peur et ils n'ont pas de confiance dans l'avenir. Jusqu'à maintenant, il y a 7 mois, il n'y a pas de gouvernement. Il y a des attaques. Peut-être il n'y a pas beaucoup dans les médias. Mais les gens vivent dans l'inconnu et dans la peur. Hier, il y avait un chrétien qui a été enlevé et les parents ont payé 80 000 $ pour le libérer. Puis à Mossoul, il y avait aussi des explosions.
Et il n'y a toujours pas de gouvernement. Les Irakiens attendent un gouvernement.
Oui, il y a un vide, mais je crois que ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, l'Irak va vers une division, disons, sectarienne, mais peut-être plus loin que ça, malheureusement.
Alors, Monseigneur Sacco, une première question de ma part. Les chrétiens d'Irak, on sait qu'ils fuient, ils partent beaucoup parce que la vie est trop, trop dure. Est-ce que vous n'avez pas envie, vous, en tant que pasteur, de leur dire, écoutez, restez, restez sur votre terre?
Les gens ne veut pas nous écouter avec les paroles, il faut des faits. C'est-à-dire, il faut essayer de les protéger, de les rassurer, et ce qui n'est pas facile. Et puis, vous savez, les gens cherchent la stabilité. Pour les chrétiens, la vie, c'est la valeur absolue. Ce n'est pas comme n'importe qui. Donc, s'ils perdent quelqu'un de la famille, c'est fini, c'est catastrophique. C'est la tragédie. Alors toute la famille s'en va pour se protéger.
Et votre parole à vous n'a plus aucun poids à ce moment-là.
C'est-à-dire, ça dépend. On les encourage parce qu'ils font continuer. Il y a un témoignage là. C'est un peu l'économie divine que les chrétiens soient là parmi les musulmans pour témoigner des valeurs chrétiennes. Puis de l'évangile, donc ils sont le sel, on dit ça, ils sont un peu la lumière, c'est petit, mais l'effet est grand, et même les musulmans apprécient notre présence, mais c'est une présence précaire et fragile.
Alors, il y a quelques semaines, quand on a parlé de l'organisation de ce synode, et à vos chrétiens d'Irak, à vos paroissiens, vous nous avez dit que, pour beaucoup, certains pensent que ce synode va régler un peu tous leurs problèmes. Et vous nous avez dit que, évidemment, c'était pas aussi simple que cela. Il y a une grande attente. Comment vivent vos chrétiens ce synode?
Il y a des peurs, mais il y a aussi des espoirs. Au plan de préparation en Irak, très peu. Il n'y a pas eu de préparation parmi les évêques et l'assemblée des évêques. Chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait dans son diocèse. Il y a des problèmes très sérieux qu'on peut régler. Par exemple, la constitution, la modification de la constitution en Irak et au Moyen-Orient. La charia, donc une constitution, doit protéger tous les citoyens comme citoyens, l'égalité des citoyens devant les lois. Il ne faut pas avoir des citoyens de première classe et de deuxième classe, ou bien majorité et minorité. Ça, c'est honteux.
Oui,
donc ça, c'est possible.
Mais justement, Mgr Sacco, est-ce possible dans un monde musulman d'avoir une unique citoyenneté?
Je crois qu'il faut la réclamer. C'est un peu le devoir de l'Assemblée internationale, des pays, mais aussi d'Église, pour dire que c'est fini. C'est un peu on peut faire la réciprocité. Les musulmans qui sont en Occident, ils sont des citoyens comme les autres, égaux. Ils ne sont pas des demi, comme on dit en Europe, c'est-à-dire
des protégés, citoyens de seconde zone,
seconde classe.
Voilà.
Ils sont de première classe. Mm-hmm. C'est-à-dire, donc, pourquoi nous sommes autochtones? Et nous sommes là avant même l'arrivée des musulmans. Nous les avons accueillis, nous leur avons offert un peu tout. Donc, il ne faut pas nous considérer des citoyens, des minorités, ou bien de seconde classe, ou comme chrétiens. Donc, protéger, c'est la loi qui doit protéger tout le monde.
Et que manque-t-il à l'islam, selon vous? Est-ce que l'islam peut évoluer, justement?
C'est-à-dire, tous les musulmans ne sont pas fanatiques ou fondamentalistes. Le fondamentalisme est un grand danger pour tout le monde. Je crois que les musulmans modérés, les intellectuels, peuvent faire beaucoup pour aider à l'épanouissement de l'islam. Oui, la religion doit s'intégrer dans la vie publique, la vie des gens. La religion n'est pas seulement des canons ou bien des lois du Moyen-Âge. La religion est la foi, est basée sur la foi. Donc, c'est un peu différent. Il faut s'ajourner, c'est-à-dire...
Se mettre à jour.
Voilà.
Aggiornamento.
C'est ça. Voilà. C'est-à-dire faire une nouvelle lecture et lire les textes dans le contexte historique, comme on appelle en allemand « Form Geschichte », c'est-à-dire il faut les lire dans le contexte.
Tout ce travail que l'Église catholique a fait.
Voilà.
Et lorsque vous dites ça à des musulmans, Mgr Sacco, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Il y a des gens qui l'acceptent, il y a d'autres qui ne l'acceptent pas parce qu'ils n'ont pas habitué à entendre un nouveau discours, un discours religieux un peu ouvert. C'est peut-être notre mission.
Ah oui, ça serait la mission des chrétiens,
la mission...
d'appeler les musulmans à ouvrir leur islam, en
voilà,
quelque sorte.
Comme l'Église a fait durant des siècles. Parce qu'être enfermé, c'est fini. S'enfermer sur quoi que ce soit, c'est déjà la mort. Alors que l'ouverture, l'épanouissement, c'est un développement, un progrès. On peut faire des erreurs, mais on apprend, on peut se corriger. Mais s'enfermer, comme tout est divin, même les petits détails, ça, c'est terrible.
Et dans votre pays, Mgr Sacco, est-ce qu'il y a des intellectuels, justement, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour échanger sur ce point-là?
Oui, je crois, même à Kirkuk, il y a des imams très ouverts. Il y a des professeurs de l'université qui acceptent cela. Et les Irakiens, en général, ils sont de nature modérée. Vous savez, durant l'ancien régime, 35 ans, le régime était séculier. Donc, je crois qu'on peut en profiter pour aider ces musulmans-là à au moins, d'accepter les autres comme ils sont et non pas s'imposer et imposer soit la religion, soit les coutumes, etc., sur ceux qui ne sont pas de la même religion.
Vous parlez de l'ancien régime, Mgr Sacco. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une certaine forme de nostalgie de ces 35 années, certes de dictature, mais d'une dictature laïque qui permettait à toutes les religions d'exister sur un pied d'égalité? Peut-on dire cela?
C'est une conséquence de la dictature, ce que nous vivons aujourd'hui.
Voilà.
Il y avait la stabilité, la sécurité, mais tout était contrôlé. Il n'y avait pas de liberté. Aujourd'hui, on n'a pas de sécurité, mais on a beaucoup de liberté. On peut se respirer, on peut s'exprimer, on peut un peu faire un peu tout. Je crois que le problème de ces pays-là, du Moyen-Orient, c'est la liberté. un peu le problème de l'islam et la liberté. Donc, ici aussi, les chrétiens ou la communauté internationale doit former et éduquer les gens à la liberté, une liberté responsable, une liberté qui respecte l'autre et la personne humaine et ne pas la marginaliser ou l'effacer au nom de la religion.
Alors, on parle de votre pays, l'Irak, on a parlé de l'islam, de la place de l'islam. Est-ce que ce synode a été pourtant annoncé comme un synode pastoral, mais là, on parle de politique. Est-ce que, selon vous, ce synode va être pastoral ou politique?
C'est un synode qui n'est pas dogmatique. Ça, c'est déjà beaucoup. Donc, je crois que c'est un synode pastoral, mais j'espère que ce soit un synode pratique. Et non pas une occasion de célébration, disons.
Vous voulez dire concret, c'est
ça ? Concret et objectif. Confronter le problème comme ils sont et avoir le courage de dire les choses comme on les vit. Et non pas tourner autour de la tour, disons, et tomber, rater cette occasion-là, que c'est un péché. Donc, je crois qu'il faut dire, parler aux musulmans, franchement, essayer de faire des modifications sur les lois qui peuvent discriminer les autres, puis appuyer la présence des chrétiens. Les chrétiens ne sont pas là-bas, ne sont pas une colonie, ce sont des chrétiens de ces pays-là qui étaient là. Aussi aider ceux qui ont quitté le pays à retourner parce que autrement c'est fini. C'est-à-dire il y a deux fins pour les chrétiens au Moyen-Orient. L'immigration, ça va finir. Puis s'ils ne réagissent pas et ne font rien, donc c'est d'être des citoyens de seconde classe avec des oppressions, puis aussi à la fin, c'est fini, la présence. Donc, je crois que ce synode-là, pour nous, c'est une chance d'être ou pas.
Alors, ce matin, lors de la présentation du synode en salle de presse du Vatican, certaines voix se sont élevées pour critiquer un peu le fait que sont attendus à ce synode la plupart des évêques et des patriarches du Moyen-Orient, mais très peu de laïcs et de gens, de chrétiens du terrain. Est-ce que vous ne craignez pas un peu une cassure entre la hiérarchie et les chrétiens de base, si j'ose dire?
On attendait aussi la participation des laïcs et des experts de ces pays-là, même des gens politiques, des parlementaires. Mais je ne sais pas comment les choses ont été faites. De l'Irak, il y a un dominicain et une dame, mais on ne les connaît pas. C'est-à-dire le dominicain, un professeur, mais c'est un jeune. Donc, on aurait invité des parlementaires. Il y a 5 chrétiens. Même il y a des gens qui sont dans le gouvernement et qui sont de poids. Et même invité des musulmans aussi. Parce que...
Il y a 2 observateurs musulmans. Ça ne vous paraît pas suffisant, Monseigneur
Sacco? Non, vraiment. C'est un peu rien.
Ah, oui.
Parce que si nous discutons notre présence et notre avenir dans ces pays-là, il faut le discuter avec les musulmans directement.
Alors, autre question, Mgr Sacco. Le président français, Nicolas Sarkozy, était présent à Rome ce vendredi 8 octobre. Vous savez que la France joue un rôle traditionnellement dans la protection des congrégations religieuses en Orient. Qu'est-ce que vous attendez de la France face à l'Irak, face à vos chrétiens?
La France que moi j'ai étudiée au séminaire, ce n'est pas la même France qu'aujourd'hui.
Le monde a changé.
Un peu. C'est l'indifférence et nous sommes un peu choqués. C'est-à-dire, même au plan religieux, si on ne fait rien, mais au moins au plan humain, au niveau humain, c'est-à-dire protéger la vie des hommes, la personne humaine qui est là-bas persécutée. Quoi.
Mais comment faire, par exemple? Les Français doivent-ils accueillir vos chrétiens en France?
Ah non, je ne dis pas ça.
Voilà.
C'est-à-dire, il y a des cas précis, là où il y a des personnes qui ne peuvent pas retourner en Irak, qui seront mises en prison ou bien exécutées. C'est clair. Mais ces gens-là, je crois, il y a un devoir de les accueillir. Mais il y a d'autres, au lieu de les accueillir en Europe, c'est mieux de les aider à retourner et créer des projets. Ça coûtera moins cher.
Appuyer des projets locaux.
Des projets locaux. D'accord. Et aussi négocier avec le gouvernement local pour aider ces gens-là à retourner. Par exemple, offrir un travail, une maison.
Parce qu'à être plus, des citoyens comme les autres.
Oui, ils ont tout perdu un peu ou tout vendu. Ou bien les autres ont pris leurs propriétés.
Très bien, alors on fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Voilà, retour dans les studios de Radio Vatican pour cette émission Regard sur le Moyen-Orient, une émission spéciale à l'approche donc de ce synode qui va s'ouvrir ce dimanche. Nous sommes avec Monseigneur Sacco, archevêque de Kirkouk en Irak. Et Monseigneur Sacco, vous rentrez de Bruxelles, je crois. Qu'êtes-vous allé faire et dire à Bruxelles?
J'ai été invité par un comité qui s'occupe des chrétiens persécutés. Alors j'ai fait un rapport sur la situation des chrétiens. J'ai expliqué la situation actuelle, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai souligné deux points. Les droits de l'homme. Il y a une charte de droits de l'homme qui est pour tout le monde. Donc il ne faut pas chercher une autre charte chrétienne ou bien musulmane comme on pense. La base est commune.
Oui, mais vous savez bien, Mgr Sacco, que certains disent que ces droits de l'homme sont d'origine chrétienne et ne sont pas applicables au monde musulman en vertu de la différence culturelle. Qu'est-ce que vous en dites?
Mais tous ces pays-là, on l'a signé. Donc quand on signe ça, on est tenu à la respecter. Même s'il y a ici et là des petits détails, donc le maximum doit être respecté. Mais ça aide un peu à séparer la religion de la politique, de l'État. Aujourd'hui, imposer la loi musulmane, la charia, dans un pays, donc, si on veut ou non, c'est la discrimination. Et on la sent, nous, et nous avons peur de cela. Donc, eux, ils peuvent, s'ils le désirent, ils peuvent le faire, mais qu'ils nous restent libres, qu'ils respectent nos coutumes, notre religion, notre liberté.
Alors une des idées qui tient à cœur à Benoît XVI, c'est la communion ecclésiale. Communion, c'est justement un des thèmes de ce synode. On sait que les églises d'Orient sont parfois divisées. Est-ce que vous espérez, est-ce que vous pensez que ce synode va permettre un peu aux chrétiens d'Irak et aux chrétiens d'Orient de parler d'une seule voix? Qu'est-ce qui manque?
Il manque le courage, parce que au plan théologique, il y a des déclarations communes entre les églises que dogmatiquement, il n'y a pas beaucoup de différences. Il n'y a pas de différence, même et c'est une différence de langage. Donc, c'est la question d'ecclésiologie. Donc, même ce pas-là, on peut le dépasser. Je vous dis franchement, il n'y a pas d'avenir pour les chrétiens d'Orient avec ces petites églises comme des petites boutiques. Si les églises n'arrivent pas à être unies, avoir une seule position, une pastorale commune, et avec des plans, une stratégie et une vision pour l'avenir. Autrement, si on est dans la même église, le même bercail, séparé, avec beaucoup d'ambition, c'est fichu.
Mais qu'est-ce qui manque?
Il manque le courage.
Mais le courage de quoi?
Le courage de dire que nous sommes un et d'être d'accord. Parce qu'il n'y a pas de communion s'il n'y a pas d'unité. L'unité, ça veut dire, est basée sur la foi commune. Et même, c'est-à-dire la primauté de pape, tous acceptent une primauté, disons, pas juridique, mais symbolique, spirituelle. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème, on peut se mettre d'accord. Même si on fait une unité, ou bien un front, disons, entre nous, comme chrétiens, mais dans la vie pratique, le même discours, la même pastorale, la même formation de clergé et les programmes, disons, d'enseignement religieux et aussi de formation sociale, etc.
Mais si ça se fait pas, est-ce que c'est parce que chaque église a peur de perdre quelque chose, peut-être?
Vous savez, maintenant, avec la globalisation, le grand danger de ces églises-là est de tomber dans le nationalisme. Une église, par exemple, chaldéenne, ça peut devenir plus chaldéenne qu'une église, ou assyrienne plus qu'une église, arménienne plus qu'une église, qui est envoyée, une église est envoyée, est missionnaire. Donc, nous avons perdu un peu notre dynamisme parce que nous ne sommes plus missionnaires.
Alors vous savez, Mgr Sacco, que certains disent que les églises d'Orient devraient vivre leur Vatican II. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que pour plusieurs évêques, jusqu'à maintenant, ils pensent que le Vatican II était pour l'Église d'Occident.
L'Église latine.
L'Église latine. Donc,
c'est intéressant, ça.
Nous, pour nous, par exemple, en Irak, jusqu'à maintenant, on a rien fait.
Rien fait?
Presque rien. Qu'est-ce qu'on a fait? La liturgie.
Vous voulez dire que Vatican II n'est pas venu jusqu'à vous?
Non. Parce que aucune réforme liturgique, pastorale, peut-être ici et là au séminaire, il y a des idées, mais on ne vit pas seulement avec des idées. Et c'est pour cela peut-être nos fidèles vont chez les protestants, parce que là-bas ils comprennent un peu mieux les services avec les langues vivantes, etc.
Et comment vous expliquez que ces fruits de Vatican II se soient arrêtés en Occident?
À la frontière.
Je crois que c'est un peu parce que c'est un peu exigeant de faire d'aggiornamento, du renouveau, des réformes. Puis ces églises-là manquent beaucoup d'experts, de personnes.
D'intellectuels peut-être?
D'intellectuels.
Ça serait une piste de travail, ça, peut-être.
Un peu, oui. C'est plus facile de prendre ce qu'il y a avant.
De faire tourner la boutique.
Voilà.
C'est ça.
Mais faire un progrès, c'est très exigeant et fatigant.
Alors justement, est-ce que le pape ne pourrait-il pas jouer un rôle là-dedans, en vous appelant les uns et les autres à...
Il a fait tout ça plusieurs fois dans des discours. C'est-à-dire, il y a ici et là dans des évêques, des prêtres qui ont essayé. Moi, dans mon diocèse, j'ai essayé beaucoup. C'est pour cela que mes fidèles sont restés là-bas et ne sont pas allés chez les nouvelles églises. Mais vous savez, c'est pas seulement avec les textes. Il faut chercher un mécanisme pour traduire ces textes-là, pour traduire dans le concret les idées, que ce soit le Vatican. Et maintenant, on a peur de la même chose pour ce synode-là, que ce soit des textes très, très beaux. Puis, une fois retournés chez nous, c'est fini.
On continue comme avant.
Voilà, la routine.
Alors, on a parlé de communion. La deuxième dimension du thème, c'est le témoignage. Comment les chrétiens aujourd'hui peuvent, malgré les difficultés, mais jouer un rôle de chrétiens dans la société irakienne, dans votre pays, en 2010?
Un témoignage se vit, se sent. Il n'y a pas de témoignage, surtout dans le monde musulman, sans l'unité des églises, la charité. Ils nous disent, le Christ vous a enseigné l'amour et vous vous êtes divisés. Donc c'est un scandale pour de voir des petites églises ici et là. Donc je crois le témoignage sera limité s'il n'y a pas de communion.
Et plus concrètement, comment peuvent-ils œuvrer au bien commun aujourd'hui dans la société irakienne? Vous avez parlé de députés chrétiens qui auraient pu d'ailleurs être invités ici, mais qui ne le seront pas. Concrètement, que vous pouvez nous dire sur cet engagement des chrétiens?
C'est-à-dire, il faut éduquer les laïcs. Il faut préparer un cadre pour qu'ils travaillent aussi dans la politique, dans la société. Et je crois qu'il faut faire cela, il faut les former. L'élite peut beaucoup faire. C'est-à-dire, il y a la majorité, mais là où il y a, par exemple, une élite, un cadre très fort, je crois... Le cadre peut changer la majorité. Ce n'est pas une question de minorité et de majorité. Ça dépend de la personnalité et aussi de la vision prophétique de quelqu'un.
Monsieur Sacco, on sait que le monde musulman est rongé par le cancer du fondamentalisme. Ça serait quoi l'antidote? Est-ce que c'est votre présence de chrétien qui peut ouvrir l'islam? Est-ce que c'est l'Occident qui peut ouvrir l'islam?
Je crois que c'est un peu compliqué. Il y a nous, mais il y a l'Occident, parce que pour eux, ces musulmans-là, ils se sentent incapables de s'intégrer dans la société contemporaine, qu'on la voit à la télévision, dans les médias, pas de valeur, par exemple, à propos de la famille, etc. Tous ces films-là, excusez-moi de le dire, de la pornographie, etc. Et ils ont peur que ça vienne, que ça vient chez eux et va détruire un peu tout. Puis la politique aussi. Cette politique de l'Occident qui exploite un peu l'Orient, le pétrole, tout cela. Donc l'Orient fait marche arrière. Tout vient de l'Occident. L'Occident fait des progrès. Donc eux... ils se sentent incapables. Alors, ils sont agressifs. Ils ont peur. Il faut aussi analyser un peu pourquoi les musulmans ont peur. Il y a le fait de la Palestine et d'Israël aussi. Pourquoi
Est-ce
ne
que
pas
vous pensez
résoudre...
des négociations en ce moment? Vous avez une espérance pour les négociations qui se jouent en ce moment? On sait que Mahmoud Abbas a mis son mandat en jeu. Vous pensez qu'il peut en sortir quelque chose?
Lui, je crois qu'il a une bonne volonté, mais il faut avoir beaucoup de courage. Puis, au niveau mondial, je crois qu'il y a aussi une volonté, mais ça dépend d'Israël. Si Israël voudrait vivre en paix, avoir un avenir, disons, stable, il faut négocier avec les Arabes directement, même sans d'intermédiaire. Et avoir le courage de se mettre ensemble et dire les choses et vivre en paix comme voisins.
Merci Mgr Sacco d'avoir été notre invité pour cette première émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.org et sur le site d'ailleurs du quotidien La Croix, lacroix.com.
La-croix.com.
Prochaine information, prochaine émission, lundi prochain. Merci à tous.